une fois par mois, vous écoutez Billets d'Afrique, une émission où on ne parle pas que d'Afrique.
Regarde comme au fil des siècles cette histoire se répète. C'est toute une légion qui se lance à notre conquête.
Une émission où l'on parle de colonialisme. Parce que ça manque dans le paysage.
Territoire occupé.
Parce que si on veut que le monde change, il va falloir changer les règles du jeu.
Comment veux-tu qu'on s'appelle lorsque leurs troupes sillonnent le réel? Territoire occupé.
Chers auditeuristes, bonjour, c'est Billets d'Afrique. On se retrouve pour passer une demi-heure ensemble à parler des questions coloniales. Aujourd'hui, en 2024, rien ne va mieux, on va pas faire semblant. J'ai choisi de vous lire quelques textes, et notamment certains tirés du magazine Le 1 Hebdo, que vous connaissez peut-être, qui est un magazine papier très intéressant, qui font des numéros spéciaux. Ce numéro spécial-là s'appelle « Qui convoite l'Afrique ?». Je me suis dit « Tiens, ça tombe dans le mille ». Quand on l'ouvre, parce que c'est un format un peu particulier, et quand on l'ouvre, on trouve une carte assez incroyable qui fait froid dans le dos, mais qui montre très bien la réalité actuelle. On voit une carte du continent africain et tous les intérêts qui y sont exploités par les grands groupes étrangers. On y voit, par exemple, montrer très bien la question du pétrole au Nigeria. On y voit la question de Djibouti, qui est toujours sous autorité française. On y voit ce qu'il se passe à Addis Abeba, en Éthiopie. Ça nous parle aussi du Congo-Kinshasa. Et on parle du groupe Wagner à Bangui. Une carte donc très complète où on voit que les uns ont des ressources en bois, les autres en cacao, les troisièmes en uranium, les quatrièmes en pétrole, les cinquièmes bref. Et c'est là qu'on se rend compte, s'il fallait encore le prouver, que l'Afrique est le continent le plus riche de notre planète. Et c'est bien pour ça que ce continent est soumis à des siècles de domination, des décennies de pillage qui permettent en réalité notre mode de vie à nous, les Occidentaux. Alors, pour démarrer fort, tout de suite, je vais vous lire un texte de Amadou Kourouma, qui est né en Côte d'Ivoire en 1927 et mort en France en 2003. C'est un grand écrivain qui a vécu l'espoir de la décolonisation et le désenchantement des régimes autocratiques. Il a notamment publié « Soleil des indépendances » au Seuil en 1970 et « Allah n'est pas obligé » en 2000, qui évoque les enfants soldats du Libéria. Dans son roman « En attendant le vote des bêtes sauvages », dont ce texte est extrait, il brosse le portrait satirique d'un dictateur en partie inspiré par le chef d'État togolais Gnassingbé Eyadema, qui est mort en 2005. Je vous avais déjà parlé des terribles émeutes qui ont été réprimées dans le sang, notamment par la France, après la mort d'Eyadema, émeutes de joie à la base, qui se sont transformées en carnage pour mettre à la tête Faure Gnassingbé, son fils, ami de la France. Merci, le XVIIe siècle, les Togolais n'auront pas le droit à la démocratie que l'on veut répandre un peu partout sur la planète, paraît-il. Je vous lis donc ce texte qui s'appelle « Le sous-sol le plus riche du monde ». Un matin, l'homme au totem léopard réfléchit et compte. Il cumule 20 ans de pouvoir et le bilan est négatif. Totalement négatif. Le pays n'a ni route, ni hôpitaux, ni téléphone, ni avion, ni... Les médecins ne soignent plus, faute de médicaments, et parce qu'ils ont de nombreux mois d'arriérés et de salaire. Les jeunes ne dansent plus, ne baisent plus, parce que tout le pays est infecté de sida. L'homme au totem léopard a beau se tenir la tête, beau regarder au loin, il n'entrevoit pas poindre une quelconque petite lueur d'espoir. Les membres de sa famille et ses plus proches collaborateurs sont tous des paresseux, des jouisseurs. Ils n'ont pas su commander le développement, le décollage du pays, de la nation, du grand fleuve. Les militaires, les policiers, sont tous des rançonneurs, des pillards. Ils n'ont pas réussi à assurer l'ordre, la sécurité du pays. Les responsables du parti, les chefs, les hauts fonctionnaires, sont tous des prévaricateurs, des corrompus. Ils ne sont pas parvenus à mobiliser, à administrer le pays. Il ne reste qu'une voie à exploiter, une seule chose à essayer, le peuple. L'homme au totem léopard décide de laisser l'exploitation du pays au peuple, à l'informel, de laisser au peuple lui-même sa propre gestion. Et souverainement, et en toute conscience, il décide la libéralisation totale de l'exploitation minière dans le pays au sous-sol le plus riche du monde. Chaque citoyen peut creuser où il veut avec les moyens dont il dispose. C'est la folie. Partout, dans la vaste république du Grand Fleuve, partout dans les mines de pierres précieuses, les ouvriers, les premiers, désertent les entreprises qui les logent et les soignent. Ils commencent à creuser, à travailler à leur propre compte, à tenter leur chance. Et par miracle, au fond de leur tamis apparaissent quelques paillettes brillantes, et même des pépites. Rien ne se répand aussi vite que l'écho du bonheur. Le bruit court du nord au sud, de l'ouest à l'est de la vaste république du Grand Fleuve. La chance, l'espoir, on n'y croyait plus, existe encore quelque part dans la république du Grand Fleuve, le vaste pays aux trois fuseaux horaires. Par dizaines de milliers, les enseignants, les fonctionnaires abandonnent les classes et les bureaux pour aller se faire casseurs de pierre. Le potentat en profite pour se conformer aux recommandations du FMI et procède à des licenciements massifs d'agents de la fonction publique. Les licenciés marchent sur les villes minières. Des classes entières d'écoliers et d'écolières suivent leurs instituteurs sur les chantiers. Les malades, les lépreux, les sommeilleux suivent les infirmiers et leurs médecins dans les mines. Les producteurs de café, de coton, les pêcheurs par village entier désertent les plantations et les pirogues pour devenir casseurs de pierre. Par classe, par village, par hôpitaux, en famille, au grand complet, tous s'attaquent aux collines comme des fourmis. Les lépreux avec les moignons creusent, les aveugles tamisent. Les femmes, à quelques mètres des creuseurs, assemblent des pierres, montent des foyers, cuisent des haricots, des bouillies de manioc. En échange de la poudre d'or, les creuseurs se restaurent. Plus loin, les Nganda, les buvettes, appelées ailleurs des maquis et des super Nganda, les super maquis, s'installent et servent leur musique tonitruante. En échange de diamants, les creuseurs peuvent boire. Les éleveurs amènent vers les villes minières des troupeaux entiers qui y sont dépecés en quelques heures. Tous les aventuriers de la terre foncent sur les villes minières de la République du Grand Fleuve. Les marabouts, les devins, les sorciers, les prostituées d'Oro et du Kenya, les marchands ouest-africains avec leurs pacotilles, les Libanais, généralement de confession chiite, montent des comptoirs d'achat entrant en concurrence avec les nationaux. Les comptoirs des Libanais sont les plus prospères. Ce ne sont en fait que des établissements pour le blanchiment de tout l'argent sale du monde. Argent de la drogue, argent des trafics d'armes. Ces établissements ont besoin de protection, de vigile. Tous les membrus, malabars et tireurs d'élite du pays rejoignent les villes minières. Le flot des camions transportant les passagers dans les villes minières chamboule la vie des villageois des agglomérations traversées. Eux qui, contre quelques récompenses, désembourbent les autos pendant la saison des pluies, doivent, nuit et jour, sortir les houes et les pioches. Le surcroît de travail n'apporte pas le surcroît de récompense espéré. Les aventuriers qui vont sur les villes minières sont pingres. Les braves villageois laissent les camions s'embourber, et même pire, car des gestes rageurs et vengeurs approfondissent les fossés et les chaussées. Les routes sont coupées, totalement inutilisables. Il n'y a plus de moyens de transport conduisant dans les mines d'or et de diamants de la République du Grand Fleuve. C'était donc un extrait de « En attendant le vote des bêtes sauvages » qui est paru aux éditions du Seuil en 1998. Je crois pouvoir dire que le fond de ce texte d'Amadou Kourouma est de dire que là où il y a orpaillage, il y a pauvreté. Parce que ce qui est tiré de la terre ne donne pas à manger. La folie extractiviste dont est victime notre civilisation au jour d'aujourd'hui ne permet pas aux gens à l'autre bout de la chaîne de se nourrir correctement, d'avoir une qualité de vie, de profiter d'un endroit où vivre qu'ils aménageraient dans lequel ils feraient croître leur culture, leur famille. Non, cet extractivisme fou entraîne les déplacements, entraîne les villes dortoirs, entraîne la pauvreté, la précarité. Et ce que dit aussi ce texte, c'est qu'une des maladies modernes du continent africain, c'est le libéralisme. Voici tout de suite un texte écrit par Raphaël Granvaux et publié sur le site de l'association anticoloniale Survie, dont je vous ai déjà parlé. C'était le 1er octobre dernier et il a pour titre « Déni oui oui ».
Auditionnée par les parlementaires le 4 octobre dernier, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a expliqué le départ des militaires français du Niger par ces mots. Il n'est pas question de coopérer militairement avec des putschistes. Une affirmation qui a dû faire sourire dans un certain nombre de casernes françaises et africaines. Après le coup d'état militaire survenu au Gabon le 30 août, la coopération militaire n'a été suspendue que 10 jours. Au Burkina Faso, elle n'a pris fin qu'après que les militaires au pouvoir ont dénoncé les accords de coopération qui la régissaient et qu'ils ont poussé les forces spéciales françaises vers la sortie. Au Mali, le renversement du président Ibeka a d'abord été accueilli favorablement par Macron et Le Drian, et ce n'est qu'après le deuxième coup d'État que la coopération militaire a été suspendue, à titre conservatoire et temporaire. Puis là aussi, définitivement stoppée par le nouveau pouvoir, en Guinée, elle n'a jamais cessé. Au Tchad, elle semble même avoir été renforcée après la prise du pouvoir du fils d'Ebi, adoubé par Macron. Et ne parlons pas des putschs constitutionnels et électoraux à répétition dans les pays amis de la France. La coopération militaire s'y poursuit en toute quiétude. Il y a putschistes et putschistes, et la boussole du pouvoir français n'est ni la nature des régimes politiques, ni la gravité de la répression commise par les forces que la coopération française a contribué à former. Ce sujet n'est pas le seul sur lequel la diplomatie française propose une lecture de la réalité marquée par le déni le plus outrancier. Au Sahel, la France a été exemplaire. Ni erreur, ni faute, ni crime, ni ingérence, et l'opération Barkhane est un succès. Un refrain que ne cesse d'entonner également le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, conformément à la ligne fixée par l'Élysée. Le tout est assorti d'une grossière réécriture de l'histoire. Selon lui, ce n'est qu'après le départ des troupes françaises du Sahel que les groupes djihadistes auraient repris du poil de la bête. Il a suffi qu'on nous invite à partir pour que le terrorisme reprenne, répète-t-il en boucle. Entre 2013, début de l'opération Serval, et 2022, fin de l'opération Barkhane, la situation sécuritaire de la région n'a pourtant pas attendu le départ des militaires français pour se dégrader de manière continue. Pas de coopération militaire avec les putschistes, pas d'échec au Sahel, mais pourquoi se contenter de si peu? Il n'y a plus non plus de bases militaires en Afrique, de francs CFA, de soutien politique aux firmes prédatrices, à commencer par les bombes climatiques de Total Energy. Les services secrets français n'ont pas non plus continué à soutenir les sociétés qui vendent des logiciels de surveillance globale, à des régimes autoritaires. Les autorités politiques n'ont pas fermé les yeux sur les crimes parfois commis grâce aux armes, aux formations et aux renseignements fournis par la France. Et bien sûr, elles n'ont jamais abusé du secret défense pour camoufler ces scandales, ni cherché à intimider les journalistes qui les ont documentés. Bref, comme on sait, il n'y a plus de France-Afrique. Raphaël Granvaux.
Je vais à présent vous lire une petite tribune qui me tient à cœur, qui s'appelle « Il nous faut sortir le processus de décolonisation de l'ornière ». Bref débat, sans vote, en fin d'après-midi, à l'Assemblée nationale puis au Sénat, voilà ce que la République française propose de mieux en matière de débat démocratique sur sa politique africaine, au moment même où celle-ci connaît une contestation populaire sans précédent depuis la période des indépendances en Afrique et où l'armée française tente vaille que vaille de retirer son matériel et ses soldats du Niger. Dans une tribune publiée en janvier 2020, à l'occasion du sommet de Pau, emblématique de l'incapacité des autorités françaises à penser leur rôle autrement qu'avec l'orgueil qu'implique une posture coloniale, nous prévenions. La présence militaire française au Sahel, prétendant apporter une vaine solution militaire à des problèmes politiques et sociaux, ne pouvait que nourrir ce qui commençait à être qualifié de sentiment anti-français dans les rédactions parisiennes et les couloirs du Quai d'Orsay. Un an plus tard, l'aviation française bombardait les abords du village malien de Bounti, tuant une vingtaine de civils, qu'elle prétend toujours être des terroristes, en dépit des conclusions inverses de l'ONU. Deux mois après, les intérêts français étaient pris pour cible dans les émeutes au Sénégal. En novembre 2021, il y a deux ans, quasi jour pour jour, une colonne militaire destinée à ravitailler l'opération Barkhane était bloquée par une foule hostile, d'abord au Burkina Faso, puis au Niger, où l'armée française se dégageait en ouvrant le feu. Elle est accusée d'avoir tué 3 personnes et mutilé une dizaine d'autres manifestants. Un crime colonial qu'elle nie comme tant d'autres. La France-Afrique enterrée tellement de fois. La montée d'un sentiment anti-français n'a rien d'étonnant, écrivions-nous. Il s'agit en somme d'un sentiment anti-France-Afrique. Le putsch au Niger et le bras de fer diplomatique qui ont suivi ont ravivé cette question lancinante du néocolonialisme français dans la région. Mais le président français ne se démonte pas. « Le temps de la France-Afrique est révolu, je vous le confirme », affirme-t-il dans une interview fin août, après l'avoir dit en mars depuis le Gabon. Son ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, lui emboîte le pas début septembre en assénant que « la France-Afrique est morte depuis longtemps ». D'innombrables commentateurs leur donnent raison, à commencer par l'historien Achille Mbembe, devenu depuis 2021 un zélé ambassadeur de la politique africaine d'Emmanuel Macron. À chaque fois, les formules sont efficaces et marquent les esprits. La France-Afrique, terme qui paraît aussi poussiéreux aujourd'hui qu'il semblait encombrant par le passé, relève a fortiori de l'histoire ancienne. Mais alors, pourquoi ressort-il sans cesse de sa boîte ? Ironie du sort, c'est Gérard Araud, ex-ambassadeur de France auprès de l'ONU, au moment notamment des deux interventions militaires emblématiques de la France-Afrique sous Sarkozy en Libye et en Côte d'Ivoire, qui alerte contre ce discours tautologique. Dans une tribune publiée début août, il souligne l'importance de cette France-Afrique dont tout nouveau président annonce la fin dès son élection, comme s'il ne se rendait pas compte que cette répétition rituelle prouvait qu'elle avait survécu à ses prédécesseurs et lui survivrait sans des mesures radicales qui ne sont jamais venues. Mais disons l'évidence, puisque c'est le faux procès auquel on s'expose. La France-Afrique des années 2020 n'est pas le clone de celle des années 1960 ou des années 1990. Inutile donc d'insister sur les différences avec l'époque de l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, à qui la paternité du mot est d'ailleurs attribuée à tort. Ce qu'il convient de regarder, c'est ce qui est perpétué. Certes, le néocolonialisme français est aujourd'hui bousculé par le regain de contestation populaire auquel on assiste, amplifié par les réseaux sociaux et encouragé par des puissances concurrentes, ce qui n'a rien de nouveau. Il est évidemment inédit depuis 60 ans que la France connaisse simultanément un recul dans 3 pays africains voisins, tel un large trou dans la carte habituelle de l'influence française. Mais ce que l'histoire franco-africaine nous montre, c'est qu'en réponse aux crises récurrentes de l'impérialisme français, des changements interviennent sporadiquement avec pour effet justement d'en préserver l'essentiel. Reprendre la décolonisation. Ceux qui brandissent l'incapacité de Paris à faire rentrer dans les rangs les putschistes nigériens comme nouvelle preuve irréfutable de la fin de la France-Afrique oublient un peu trop vite que l'histoire a souvent emprunté des méandres. Ils se leurrent en pensant que la France a toujours maîtrisé parfaitement le cours des événements et en omettant que c'est justement face à des déconvenus qu'elle a régulièrement modifié sa politique africaine pour ne pas être pleinement poussée vers la sortie. Elle a particulièrement bien réussi à le faire au moment des indépendances, préemptée avant même d'être accordée. Elle a continué à le faire depuis par une succession de réformes. En dépit des événements des dernières semaines, le pouvoir macronien fait le pari que cette stratégie peut encore payer. Bien que l'arrogance française ait servi de paratonnerre aux putschistes depuis fin juillet au Niger, la politique d'Emmanuel Macron donne encore à voir un puissant système d'influence auquel contribuent les élites africaines et qui en bénéficient en retour, une constante depuis les prémices de la France-Afrique. La France n'a jamais été un deus ex machina, intervenant en déconnexion, voire en contradiction avec l'ensemble des forces internes d'un pays ou d'une sous-région. Elle a toujours tenté de manœuvrer au mieux selon ses intérêts, grâce à des leviers de pouvoir dont la pérennité depuis 65 ans est en réalité sidérante. La présence militaire multiforme, le franc CFA, la mal nommée aide au développement, l'influence culturelle et linguistique, la fabrique d'une légitimité politique pour les dirigeants alliés. Autant d'outils dorénavant désuet, selon Achille Mbembe, qui reconnaît tout de même, ainsi en creux, la perpétuation des principaux attributs de la puissance française en Afrique. Le temps est peut-être venu de s'en débarrasser et en bon ordre, suggère-t-il. Chiche. Plutôt que de focaliser l'attention sur des réformes minimalistes comme la mutation du franc CFA d'Afrique de l'Ouest fin 2019 ou l'annonce en février dernier de l'évolution des bases militaires permanentes, il est temps de s'attaquer à l'armature institutionnelle et culturelle du colonialisme français. C'est devenu une évidence. Il nous faut sortir le processus de décolonisation de l'ornière dans laquelle il a été poussé au moment des indépendances africaines. Mener à bien ce processus sera long, mais deux étapes minimales sont d'ores et déjà évidentes. Paris doit annoncer un agenda de retrait militaire complet, base, opérations extérieures, coopérants détachés. Et deux, il faut une sortie française inconditionnelle du franc CFA. Voilà, ce texte a été publié en tribune sur le site de Mediapart. Il a pour signataire Boubacar Boris Diop, qui est écrivain du Sénégal, Patrice Garessio, qui est coprésident de Survie en France, Demba Kariom Kamadji, qui est syndicaliste au Tchad, Eric Kinda, qui est porte-parole du Ballet Citoyen, qui est un mouvement populaire et politique du Burkina Faso, qui a notamment Demi Blaise Compaoré, Younous Mahadjir, qui est syndicaliste lui aussi au Tchad, Issa Ndiaye, qui est universitaire et ancien ministre, qui est président du Forum civique du Mali, Jacques Ngarassal Saham, qui est coordinateur de Tournons la page au Tchad, et Ndongo Samba Sila, qui est économiste au Sénégal. Voilà de beaux signataires donc pour cette tribune qui est parue le 21 novembre dernier. Tout de suite à propos du Niger, puisque je m'étais promis d'essayer de tenir un petit peu la suite de l'actualité. Il y a donc eu un coup d'État au Niger l'été dernier et j'avais fait une petite émission sur ce sujet dans un billet d'Afrique que vous pourrez réécouter en podcast si ça vous intéresse. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes fin janvier 2024, la France a officiellement complètement quitté ce pays et pour autant, le nouveau gouvernement formé par Gabriel Attal entend mettre le nucléaire au centre de sa politique. Et voilà, braves concitoyennes et concitoyens, comment on nous prend pour des jambons. Puisqu'il n'y a pas de nucléaire sans uranium et que la France est partie du Niger, il va forcément falloir trouver un autre pigeon à plumer. Alors, dès qu'on en saura plus, je vous tiendrai au courant. En attendant, je vous lis le petit mot de Robert Solé qui s'appelle « Décalogue » à propos de ces putschs à la chaîne. Entreprendre un coup d'état militaire ? Rien de plus banal aujourd'hui en Afrique. Encore faut-il réussir cette affaire un peu délicate. Sauf erreur, le manuel du parfait putschiste qui tient en 10 commandements n'est pas encore enseigné à l'école de guerre. 1. De la cible à abattre, tu te rapprocheras. Car un président de la République est normalement renversé par le chef de la garde républicaine. 2. Devant les caméras, tu apparaîtras, soit en treillis militaire et cagoulé, à la manière d'un vrai combattant, soit en grand uniforme décoré comme un arbre de Noël. 3. En sauveur, tu te présenteras, pour délivrer le peuple de l'oppression, de la corruption, de la pauvreté, du terrorisme, des agents de l'étranger et de tout ce qui te passera par la tête. 4. À tes concitoyens et au reste du monde, tu expliqueras que l'armée n'a aucune intention de diriger le pays. Un coup d'état militaire est toujours destiné à redonner le pouvoir aux civils. 5. À la présidence, tu t'auto-désigneras et organiseras de grandioses manifestations pour que le peuple soutienne avec ferveur ton attachement à la démocratie. 6. Avec audace et courage, tu bâillonneras les médias et embastilleras les mécontents. 7. À Wagner, tu t'en remettras. Et sur la France, tu cracheras en lui attribuant les pires intentions. 8. Des élections libres et un référendum constitutionnel, tu promettras, après une période de transition limitée. 9. Maître des horloges, tu resteras, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. 10. De ta garde rapprochée, tu te méfieras, car un contre-putsch est vite arrivé. Ne cachez rien aux masses de notre peuple, ne faites pas croire à des victoires faciles. Cette dernière citation était d'Amilcar Cabral, qui est un révolutionnaire guinéen mort en 1973. Je vous précise, si vous n'aviez pas entendu dans les épisodes précédents, que je ne suis pas forcément d'accord avec cette critique des putsch à tout va, puisque je suis persuadée que les déstabilisations ne profitent pas toujours au peuple, mais j'ai du mal à croire que maintenir les pouvoirs actuellement en place sur le continent africain bénéficie, elle, aux populations y vivant. Et par ailleurs, si les sentiments anti-français sont effectivement accentués par les putschistes parce que ça leur sont bien pratiques, ils sont aussi la conséquence de la politique coloniale de la France, qui a promis avec les indépendances de laisser les Africains bénéficier des richesses de l'Afrique. Et on peut complètement voir aujourd'hui qu'à force de coopération économique et militaire, rien de tout ça n'est vrai. À propos de putsch, toujours, je vous lis un article de Rémi Carayol qui est toujours paru dans l'Hebdo le 1. Le titre de cet article, c'est « Pourquoi les putschistes ont la cote ?» Et pour illustrer cet article d'ailleurs, une photo d'une manifestation qui a eu lieu au Niger en 2023, sur laquelle on peut voir des manifestants tenir un panneau marqué « Laissez-nous gérer notre pays ». Et ça en dit long, quand les habitants d'un pays font des manifestations pour l'autodétermination contre la France, il faut qu'on se pose des questions. Donc, pourquoi les putschistes ont-ils la cote ? Bamako en 2020, Conakry en 2021, Ouagadougou en 2022, Niamey et Libreville en 2023. Chaque fois, les mêmes images. Une foule accueille avec enthousiasme le coup d'État mené par des hommes en treillis. Partout, un même élan pousse des milliers de citoyens à saluer l'avènement d'un régime militaire. Un point commun semble les réunir, l'exaspération. Et la colère aussi, estime Ali Idrissa, qui milite au Niger dans le collectif Tournons la page, qui promeut l'alternance démocratique dans une dizaine de pays africains. Ce n'est pas que les gens ne croient plus à la démocratie, insiste-t-il, c'est juste qu'ils ne font plus confiance aux hommes politiques et au système qu'ils ont mis en œuvre. Dès lors, même s'ils ont en général pleinement participé à ce système, les militaires apparaissent comme un moyen de tout remettre à plat. Au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, les défenseurs de la démocratie ont salué les putschs. D'autres les ont condamnés pour la forme tout en ajoutant qu'ils étaient le seul moyen de purger le système. Les griefs contre le système démocratique tel qu'il a été façonné au long des dernières décennies sur le continent sont nombreux. Pour beaucoup, la démocratie est synonyme de corruption, d'élections faussées et surtout de développement économique capté par une petite élite. Victimes des putschs, Ibrahim Boubacar Keïta au Mali, Mohamed Bazoum au Niger et avant lui Mahamadou Issoufou, Rochmar Christian Kabore au Burkina Faso, Ali Bongo Ondimba au Gabon et Alpha Condé en Guinée, ont tous un point commun. Ils ont été mal élus, lors de scrutins tronqués par la force ou la puissance de l'argent. L'élection n'est plus synonyme de légitimité. Au Niger, aucun parti au pouvoir n'a jamais perdu des élections. Un coup d'État était presque la seule possibilité d'y changer la configuration du pouvoir, souligne l'anthropologue Yannick Schritt, qui a étudié la pétrodémocratie nigérienne. Ces cinq chefs d'État déchus partagent une autre caractéristique. Durant leur mandat, les scandales financiers ont défrayé la chronique. Quand le niveau de vie de la population a stagné, en dépit des chiffres ronflants de la croissance, à quoi sert la démocratie si on n'a pas de quoi nourrir la famille après le travail, interroge un syndicaliste malien ayant requis l'anonymat. Une étude menée peu avant le putsch au Niger par le réseau de recherche indépendant panafricain Afrobarometer illustre ces aspirations contradictoires. La grande majorité des sondés, 72%, se disaient opposés au système de parti unique et voyaient la démocratie comme le meilleur système politique, 61%. Mais près de la moitié, 48,5%, indiquaient être favorables à ce que l'armée prenne le pouvoir pour diriger le pays et une majorité, 56,9%, estimait plus important d'avoir un gouvernement efficace, même si le peuple n'a aucune influence sur ses actions. Le problème n'est pas donc la démocratie en tant que telle, souligne le politiste Gilles Liabi, fondateur du think tank Wati basé à Dakar, mais la manière dont elle a été mise en œuvre sur le continent. La démocratie. Il faut cesser de reprocher à un modèle démocratique qui viole régulièrement les principes constitutionnels de ne pas produire les résultats escomptés, s'irrite-t-il. Dans nombre de pays ouest-africains, on qualifie le régime en place de « démocratie light », comme le coca light. Ça a la couleur du coca, mais pas le goût, entend-on. Les militaires ont ainsi beau jeu de se présenter comme une alternative crédible et de faire passer leur prise de pouvoir comme un mal nécessaire. « Si vous souhaitez en savoir plus sur Rémi Carayol, qui est l'auteur de ce texte, il a aussi écrit Mirage sahélien, la France en guerre en Afrique, Serval, Barkhane et après, qui est publié aux éditions de La Découverte en 2023. Et il est animateur du site d'information Afrique 21 et collabore entre autres à Mediapart et au Monde diplomatique. Le temps du martyr. David Diop a écrit ce poème qu'on peut trouver dans le recueil Coup de pilon, paru en 1960. Mort à 33 ans dans un accident d'avion, David Diop n'a publié qu'un seul recueil, Coup de pilon, mais les vers accusateurs du Sénégalais sont emblématiques de la lutte contre la colonisation. Les richesses de l'Afrique suscitent toujours la convoitise des puissances étrangères et des militaires. Toi, mon frère, au visage de peur et d'angoisse, relève-toi et crie non. Le blanc a tué mon père était fier. Le blanc a violé ma mère était belle. Le blanc a courbé mon frère sous le soleil des routes, mon frère était fort. Le blanc a tourné son visage vers moi, ses mains rouges de sang, noires. Et de sa voix de maître, « Hey boy, un berger, une serviette, de l'eau !» David Diop. Sur ce poème, il nous faut conclure. Comme il était justement développé dans la tribune sur Mediapart, l'emprise coloniale française n'est plus aujourd'hui celle des années 60, après les soi-disant décolonisations. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Il y a certes bien des mouvements politiques et populaires qui ont fait reculer l'influence française. Et il y a de nouvelles composantes à prendre en compte, comme le groupe mercenaire de Wagner ou l'influence financière de la Chine. Il y a surtout de très grands groupes capitalistes qui, par leur pouvoir économique, se trouvent à avoir un poids politique. Je peux citer par exemple rapidement le groupe français Total, qui est responsable du déplacement de dizaines de milliers de gens et la destruction d'une partie de l'habitat de nombreuses espèces protégées dans plusieurs endroits du continent africain, mais notamment dans le delta d'Okavango. Je vous invite à vous renseigner là-dessus, c'est juste vraiment attristant et il est possible d'ailleurs d'aider à mettre le groupe Total en procès. C'est assez réjouissant de cliquer sur le petit bouton. Et citons aussi Apple, par exemple, qui, pour sortir ses iPhones, puise dans les terres rares, sous la forêt équatoriale. Et pour avoir les autorisations d'exploitation, eh ben, il faut se mêler un peu de politique. Voilà, c'est donc pas terminé et on ne peut que soutenir les mouvements décoloniaux qui se trouvent sur le continent et qu'on ferait bien d'écouter un peu plus. Nous, on se quitte là-dessus pour aujourd'hui. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles infos décoloniales. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Surtout, n'oubliez pas cette belle citation de Thomas Sankara. La révolution, ce sera le jour où les pauvres du Nord se rendront compte qu'ils ont les mêmes ennemis que les pauvres du Sud. Allez, salut !